à l'oreille du monde.
Géopolitique et actualité internationale.
Un samedi par mois.
À 20h.
Sur Radio Campus Paris.
Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans À l'oreille du monde. Je suis Léo LB, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Cette nouvelle saison aussi, en début de la saison 2025-2026. Et la règle est toujours la même, traiter de sujets peu médiatisés. Et ce soir, direction la Côte d'Ivoire, où se tiennent le 25 octobre les élections présidentielles, quasiment jouées d'avance, on le verra. Pour décrypter les enjeux de ce scrutin et analyser les relations internationales de la Côte d'Ivoire, je reçois dans un instant l'enseignant-chercheur Richard Banegas. En fin d'émission, on retrouvera Florent et son pas de côté. Il nous parle ce soir de la musique Zouglou. Mais tout de suite, je vous présente la carte d'identité de la Côte d'Ivoire. C'est parti pour cette première émission. On est en direct jusqu'à 20h30 sur Radio Campus Paris.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Partons donc en Côte d'Ivoire, un pays de l'Afrique de l'Ouest situé sur le golfe de Guinée, disposant d'un littoral qui s'étend sur 550 km. La Côte d'Ivoire est entourée au nord par le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, trois pays francophones. À l'ouest se trouve le Libéria et à l'est le Ghana, deux pays anglophones. Avec une superficie de plus de 320 000 km², la Côte d'Ivoire fait un peu plus de la moitié de la France. Et géographiquement, elle est intéressante, elle présente deux visages distincts. Au nord, un climat tropical de savane qui s'étend progressivement vers le Sahel. Et au sud, une forêt dense et un climat équatorial humide. La forêt a pourtant été fortement réduite, dégradée par l'exploitation. En 2025, c'est près de 33 millions de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. On peut remarquer deux particularités démographiques frappantes. 22% de la population ivoirienne est étrangère, principalement originaire du Burkina Faso. Beaucoup de demandeurs d'asile émigrent vers la Côte d'Ivoire pour fuir le régime militaire d'Ibrahim Traoré. Et puis la population ivoirienne est marquée par sa jeunesse, avec une proportion importante de jeunes de moins de 15 ans. Évidemment, cela représente à la fois un atout et un défi pour le développement futur du pays. La composition ethnique de la Côte d'Ivoire est complexe. On compte plus de 60 ethnies différentes. Les majoritaires sont les Akanes, puis les Mandés, les Gours et enfin les Krous. C'est aussi un pays multiconfessionnel avec notamment deux grandes religions, l'islam pratiqué à 43% et le christianisme à 34%. Toute cette diversité est censée être unie par la langue officielle, qui est en même temps la langue coloniale, c'est-à-dire le français. Mais en réalité, le français ne serait bien compris que par 34% de la population nationale, selon un recensement de 2021. Il existe environ 70 langues dans le pays. Si je vous demande la capitale de la Côte d'Ivoire, peut-être auriez-vous tendance à dire que c'est Abidjan. Eh bien non, la capitale, en tout cas officielle, administrative, c'est Yamoussoukro, avec ses quelques 300 000 habitants. Mais Abidjan est quand même la capitale économique et démographique, avec 6,3 millions d'habitants dans son district. Parlons justement économie. Depuis 1945, la monnaie de la Côte d'Ivoire, c'est le franc CFA. Le principal secteur économique, c'est toujours l'agriculture. D'ailleurs, très diverses. On trouve des champs de céréales, de mangue, de coton, de café, mais surtout de cacao et de noix de cajou. La Côte d'Ivoire est en effet le leader mondial de production dans ces deux derniers domaines. Ses sous-sols sont aussi riches, avec quelques mines d'or, de fer, de bauxite ou encore de diamants. Et depuis les années 80, la Côte d'Ivoire exporte du pétrole. Faisons un petit retour dans le passé maintenant. La Côte d'Ivoire naît officiellement le 10 mars 1893 sous l'administration coloniale française. Après 67 années de colonisation, elle accède à l'indépendance le 7 août 1960. S'ensuit une période de croissance économique et de stabilité politique. Mais une fracture identitaire entre les Ivoiriens va déboucher sur une décennie noire. De 1999 à 2011, la vie en Côte d'Ivoire sera marquée par des coups d'État et une guerre civile dévastatrice. Après la crise électorale de 2010-2011, qui fera près de 3000 morts, Alassane Ouattara accède au pouvoir. Et il est toujours aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. Il se présente à nouveau pour l'élection du 25 octobre prochain. C'est très bientôt et justement, pour décrypter cette élection et puis aussi parler de la géopolitique de la Côte d'Ivoire, je reçois dans le studio le chercheur Richard Banegas.
À l'oreille du monde.
Géopolitique, un samedi par mois à 20h.
Sur Radio Campus Paris.
Richard Banegas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris, chercheur au CERI, spécialiste de la Côte d'Ivoire depuis 25 ans, et votre dernier livre, La guerre des papiers en Côte d'Ivoire, ethnographie politique de l'identification et de la citoyenneté, va être publié aux éditions Cartala le mois prochain. Merci beaucoup d'être avec moi dans le studio, vous allez nous aider à cerner l'actualité de la Côte d'Ivoire. Commençons évidemment par l'élection présidentielle qui se tient le 25 octobre. Pour cette élection, le Conseil constitutionnel ivoirien n'a retenu que 5 candidats sur les 60 qui se sont proposés. Parmi ces 5 personnalités, on retrouve le président sortant, Alassane Ouattara, 83 ans, qui se présente pour un 4e mandat, mais on ne retrouve pas les principales têtes de l'opposition, invalidées par le Conseil constitutionnel à cause d'affaires judiciaires. Cela pose plusieurs questions. Est-ce que l'invalidation de nombreuses candidatures laisse un grand boulevard au président actuel pour être réélu ? Et évidemment, la question qui me vient en tête, Richard Banegas, est-ce que c'est une stratégie ?
Oui, de toute évidence, effectivement, la liste, disons, des candidats qui a été validée par le Conseil constitutionnel est une liste éminemment politique. Hein. Les candidats de l'opposition, comme vous le disiez fort justement, ont été écartés de la course au scrutin. Laurent Gbagbo, on s'y attendait parce qu'effectivement, il est inéligible depuis une condamnation, même s'il a été acquitté par la CPI, hein, il faut le rappeler, et donc rentré au pays en 2021. Une autre, disons, condamnation de la justice ivoirienne est pendante et donc il est inéligible. C'était aussi un peu attendu pour Thiam, qui est le représentant de l'ancien parti unique, l'ancien parti de Fouette-Boigny, le PDCI RDA, mais qui s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis politico-juridique en prenant un peu trop de temps sans doute à dénoncer la double nationalité dont il bénéficie et dont il bénéficiait, parce qu'il est aussi français, ce qui était un motif d'invalidation. C'était moins attendu pour Affine Guessant, qui représentait le Front Populaire Ivoirien, l'ancien parti de Laurent Gbagbo, qui s'était rapproché également du pouvoir d'Alassane Ouattara ces dernières années, et qui a été aussi écarté pour des causes plus précises de parrainage, hein, pourrait-on dire. Puis d'autres candidats moins importants, mais malgré tout, voilà, hein, effectivement, on a aujourd'hui des candidatures qui ne font guère le poids, visiblement, face à l'appareil du parti au pouvoir, le RHDP d'Alassane Ouattara.
Et justement, les oppositions appellent l'ONU, on appelle à l'ONU pour vérifier que le scrutin soit bien démocratique. Est-ce que l'ONU peut et va jouer un rôle dans ces élections ?
Oui, alors c'est d'ailleurs assez piquant de l'entendre de la bouche de Laurent Gbagbo, ou plus exactement de son nouveau parti, le PPACI, dans la mesure où on s'en souvient peut-être, effectivement, pendant toutes ces années de crise, de guerre, hein, où l'ONU était intervenue et avait des soldats sur place et avait aussi une représentation politique qui était en charge de la certification des élections, eh bien, le gouvernement de Laurent Gbagbo n'avait de cesse, justement, de dénoncer, hein, ces ingérences extérieures, et ça, son leitmotiv, c'était précisément, hein, une volonté de recolonisation de la France, des puissances extérieures. Et donc aujourd'hui, il est assez ironique de voir que son parti se tourne vers l'ONU, vers la France, vers l'Union européenne pour en appeler à un arbitrage, sinon en sa faveur, en tout cas en la défaveur d'Alassane Ouattara, pour dénoncer la tenue d'un potentiel 4e mandat.
Alors, même si le destin est déjà fixé, j'aimerais vous demander quelles sont les thématiques majeures dans ces élections, quelles sont en fait les principales préoccupations actuelles en Côte d'Ivoire ?
C'est une bonne question, parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit d'où vient, hein, la Côte d'Ivoire ces dernières années. Dans le livre que vous évoquez très gentiment, on raconte un petit peu cette histoire de la crise ivoirienne, qui a débuté formellement, disons, avec le surgissement de la rébellion en 2002, hein, qui réclamait une meilleure reconnaissance, notamment des populations du nord de la Côte d'Ivoire, qui étaient considérées comme moins ivoiriennes que les autres. Donc cette problématique de la citoyenneté, hein, cette crise de la citoyenneté qui s'était cristallisée dans le conflit ivoirien, elle s'est a priori, disons, atténuée. En tout cas, on n'en parle plus dans les mêmes termes, parce que effectivement, l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011 a semblé, en tout cas, mettre sous le tapis cette question-là, mais elle demeure malgré tout pendante. Mais ça n'est pas l'objet, en tout cas, d'un débat public aujourd'hui, même si c'est plutôt un bruit de fond, quoi, hein. Non, les questions centrales qui se jouent, c'est un, le respect des institutions et notamment de la Constitution, puisque là, c'est déjà le 3e mandat d'Alassane Ouattara, alors que la Constitution les limite à deux, Hein, en vérité, cette constitution a été modifiée en 2016. Donc, oui. Le président actuel a beau jeu de dire que ce n'est que le premier mandat de la nouvelle constitution, mais personne n'est évidemment dupe de cela. Donc, cette question du mandat, du respect des mandats, du respect des institutions, c'est un enjeu. Mais la question sociale et la question économique, elle va être aussi un enjeu crucial de cette élection, parce que le pays a connu, depuis la fin de la guerre en 2011, une croissance assez exceptionnelle, qui était aussi une croissance de rattrapage, hein, parfois même à deux chiffres. Mais c'est aussi une croissance que l'on a qualifiée d'émergence, hein, l'émergence libérale ou néolibérale du régime Ouattara, eh bien, elle a laissé énormément de gens sur le côté, hein, sur le bas-côté, avec des inégalités sociales et économiques criantes, une violence de classe, pourrait-on dire aussi, qui s'est, disons, encore plus affirmée, par exemple, dans les déguerpissements, hein, de quartiers entiers, de quartiers précaires, qui ont été rasés par les autorités publiques, pour notamment développer les infrastructures routières, pour les ponts en particulier. Donc la Côte d'Ivoire s'est, disons, transformée ces, disons, 15 dernières années, 14 dernières années, mais à un prix social et un prix économique très important, avec de nombreuses personnes aussi qui aujourd'hui, malgré, disons, cette réduction globale de la pauvreté finalement dans le pays, eh ben, ne mangent toujours pas à leur faim et sont dans une situation de grande précarité.
Bien, maintenant je vous propose de marquer une petite pause avant de continuer de parler de l'élection ivoirienne et des relations internationales de la Côte d'Ivoire. Je vous ai demandé, Richard Banegas, de me proposer une chanson locale. Vous avez choisi « On dit quoi » du groupe Yodé et Siro. C'est un morceau zouglou, très engagé politiquement. On se retrouve dans quelques instants, on écoute « On dit quoi ».
En zouglou, ça réussit toujours. Ma belle lumière partout, il y a même lumière dans le goudron. Merci au PPT, Soudrali des pays pauvres. Mais président, ton peuple a faim.
On dit quoi? Mon président, on dit quoi?
Kole Chico Chitaya.
On dit quoi? Mon président, on dit quoi?
Les gens sont emprisonnés. Tu n'as pas voulu hier, tu ne le fais pas aujourd'hui. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On dit y a pas l'argent au pays, oh. Et tu dis l'argent travaille, oh. Mais l'argent là, ça travaille pour qui, oh. Là, la présidence, c'est comment? Plus de 60 ethnies dans notre pays. Aujourd'hui, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, du gardien jusqu'au directeur. Si c'est pas le Bakayoko ou bien le Koulibaly seulement qui mange.
On dit quoi?
Des bambas.
Président, on dit quoi?
Quand ça reste un peu, on donne au Kona. Aujourd'hui, Kona est fâché. On achète les enfants de Kona, oh.
Maître Emmanuel Kona.
L'école est malade. Ça ne vous dit rien, eh, j'ai oublié, vos enfants fréquentent ailleurs, oh. Le kérosène coûte cher, oh. Mais ça voyage seulement, oh. Le pays est endetté, oh. Payez vos crédits avant de partir, oh.
Redou Jano.
On ne se réconcilie pas, mettons les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation. Pourquoi tant de souffrance avec 2% de chômeurs et bientôt une croissance à deux chiffres? Faisons attention à un peuple qui ne parle plus. Parce que quand ça va chauffer, il n'y a plus que le tube pour sauter. Maman Pildoza a tout cassé, yolé.
On vient d'écouter On dit quoi de Yodé et Siro. Merci d'écouter à l'oreille du monde. On continue de parler de la Côte d'Ivoire avec le chercheur Richard Banegas.
À l'oreille du monde,
Géopolitique, un samedi par mois à 20h
sur Radio Campus Paris.
Pour revenir sur les élections présidentielles du 25 octobre, j'ai lu que les crises post-électorales sont assez fréquentes en Côte d'Ivoire, la plus meurtrière étant celle de 2010-2011, quand Laurent Gbagbo conteste le résultat du second tour. Elle fera plus de 3000 morts. Des violences ont aussi lieu après les élections de 2020. Richard Manegas, quelles sont les sources de ces crises électorales? Pourquoi il y en a si souvent?
Alors, je ne vais pas entrer dans trop de détails, c'est ce que l'on raconte notamment dans notre bouquin avec Dino Cutolo. Mais le scrutin de 2010, effectivement, était censé être un scrutin dit de sortie de crise. Hein, après près d'une dizaine d'années, d'abord de coup d'État en 1999, puis ensuite d'une rébellion armée qui s'est développée à partir de 2002 et qui a scindé le pays en deux entités, le sud dirigé par le gouvernement légal de Laurent Gbagbo et le nord par la rébellion dirigée par Guillaume Soro et qui soutenait aussi en partie la candidature d'Alassane Ouattara en 2010. Et c'est aussi, non seulement par la voie des urnes, mais aussi par la voie des armes, hein, que Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, on s'en souvient, en avril 2011, puisque c'est aussi l'appui de la rébellion de Guillaume Soro qui a permis de faire basculer le rapport de force en sa faveur, après que Laurent Gbagbo a refusé le verdict des urnes, qui est d'ailleurs pas très si clair que ça, hein, ce verdict des urnes, mais on ne va pas revenir sur cette longue histoire. Donc, crise post-électorale, je trouve que c'est une qualification qui a souvent été utilisée, mais qui est trop réductrice, parce qu'elle oublie effectivement de prendre en considération cette densité, hein, de la violence politique qui s'était développée pendant près d'une dizaine d'années, avec une situation à la fois de militarisation du jeu politique, mais aussi de milicianisation de l'espace social, hein, aussi bien au nord qu'au sud du pays. Donc il faut avoir cela à l'esprit. Et en 2020, comme je le disais tout à l'heure, la situation s'est également tendue ô combien, hein, je disais, près de plus d'une centaine de victimes, même si le décompte officiel est en dessous, sans doute, de la réalité, parce que effectivement, le pouvoir ouattariste a fait le forcing, hein, contre l'engagement qu'avait pris Alassane Ouattara lui-même de ne pas faire de troisième mandat, de passer le relais à une nouvelle génération. Et donc là, on est dans une situation qui est effectivement explosive dès le départ, c'est-à-dire même avant la proclamation des résultats, parce qu'on dit crise post-électorale, c'est pas juste autour des résultats du scrutin. Là, c'était explosif dès avant même le scrutin, pendant la campagne où de très grandes violences avaient eu lieu. Donc c'est aussi à l'aune de cette longue histoire, de violence, qu'il faut prendre en considération les violences électorales.
J'aimerais maintenant sortir du territoire de la Côte d'Ivoire, parler des relations internationales, et spécifiquement celles franco-ivoiriennes. La France et la Côte d'Ivoire ont des relations bilatérales historiques en matière de commerce ou de sécurité, mais on l'a vu ces derniers temps, la France est obligée de retirer sa présence militaire dans les pays du Sahel. Est-ce que c'est la même chose pour la Côte d'Ivoire ?
Ben, c'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas, puisque en fait il faut là aussi remonter un petit peu en arrière. Bon, la Côte d'Ivoire, vous le savez, était pendant très longtemps ce qu'on a appelé une vitrine, hein, des relations franco-africaines, une vitrine de la réussite aussi d'un certain modèle de développement économique très extraverti, fondé sur le café, le cacao particulièrement. Et ensuite, cette relation, elle a fluctué. J'ai écrit un article d'ailleurs pour parler de la politique du yo-yo, hein, de la France en Côte d'Ivoire et au-delà. Puisque lorsque le premier putsch a eu lieu en 1999, la France est à un moment de son histoire aussi, il faut se souvenir que c'était au temps de la cohabitation, Chirac à l'Élysée, Jospin à Matignon, où est-ce que la France doit continuer à intervenir massivement, politiquement et militairement en Afrique? Le gouvernement Jospin dit non. On n'intervient pas. C'est un premier moment important de bascule, si vous voulez, dans la doctrine et dans le positionnement de la politique française, non seulement à l'égard de la Côte d'Ivoire, mais plus largement de l'Afrique francophone. Et cette décision du gouvernement Jospin, elle va de pair avec d'autres décisions de ce type qui sont dans une logique de retrait. Okay. En 2002, il y a la rébellion. En 2002, il y a la rébellion. Et là, le changement aussi politique est en France, puisque c'est un gouvernement de droite qui est élu. Hein. Et donc, il y a un mouvement, disons, de balancier qui s'effectue avec un investissement très fort hein, de la France sur le territoire, qui va envoyer près de 5000 hommes au titre de la force Licorne, avec une présence massive sur le plan militaire, sécuritaire, mais aussi un investissement politique très important de la part du gouvernement des gouvernements de Jacques Chirac. Et cette politique-là, elle va fluctuer parce qu'effectivement, ce sera très compliqué pour la France de maintenir cette influence. J'ai même parlé dans un de ses papiers d'une politique plutôt d'impuissance en raison justement de cette incapacité de Paris de faire véritablement de peser sur le cours des événements en Côte d'Ivoire en dépit hein, de cette présence massive-là. Et donc, jusqu'en 2011, hein, ça a été fluctuant et en 2011, bah, cette intervention française, elle a été décisive puisque ce sont les militaires français qui, au fond, hein, ont permis l'arrestation de Laurent Gbagbo et l'accès au pouvoir d'Alassane Ouattara. Donc on est dans cette situation de sinusoïde après que, effectivement, cette présence se soit affirmée ces dernières années, comme vous le disiez fort bien, dans toute la bande sahélienne, la France et l'armée française a été chassée hein, de ces anciennes zones du précaré et elle a négocié également, voici deux ans, le retrait aussi progressif de sa présence en Côte d'Ivoire. Il n'empêche hein, que là, on parle de présence militaire, on pense de présence visible et physique des militaires français, que cette présence, elle s'énonce et elle s'exprime aussi selon d'autres modalités. Une académie hein, de lutte contre le terrorisme a été créée récemment en Côte d'Ivoire avec les soutiens et le financement français. Donc cette influence, elle joue aussi selon d'autres modalités.
Très bien, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Richard Banegas, de nous avoir éclairé sur la situation ivoirienne. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po Paris et chercheur au CERI et que vous publiez le mois prochain, il me semble, votre livre « La guerre des papiers en Côte d'Ivoire, ethnographie politique de l'identification et de la citoyenneté » aux éditions Cartala. C'est bien ça ?
C'est ça, coécrit avec Armando Cutolo. Merci beaucoup de votre accueil.
Merci. Et nous, on continue, on termine notre émission avec le pas de côté de Florent. Alors Florent, aujourd'hui, on dit quoi ?
Mon président, on dit quoi ? Le pays devient joli, oh ! Il y a goudron partout, il y a lumière partout, il y a même lumière dans goudron. Mais président, ton peuple a faim, on dit quoi ? Je n'ai évidemment pas le talent de Yodé et Siro, mais je reprenais ces paroles de la chanson que nous avons écoutée tout à l'heure pour illustrer ce que Richard Banegas, ton invité Léo, disait hors micro. Pour comprendre la Côte d'Ivoire contemporaine, écoutons ces rythmes. 1990, campus d'Abidjan. Le Zouglou explose avec la contestation étudiante. On n'a pas l'argent fin de mois, chantent les pionniers en ouchi, l'argot local. Et ce n'est pas un hasard si ce genre musical qui dénonce les conditions de vie étudiante naît au moment où la FESI, le principal syndicat étudiant, descend dans la rue pour réclamer le multipartisme. Très vite, le Zouglou dépasse donc le cadre universitaire. Les artistes deviennent les porte-voix des sans-voix, chroniqueurs impitoyables du quotidien ivoirien. Même quand ils soutiennent Laurent Gbagbo face à la rébellion en 2002, ils gardent leur sens critique. En 2020 encore, Yodé et Siro épinglent le pouvoir de Ouattara avec des paroles codées d'une redoutable efficacité, notamment avec ce titre « On dit quoi ?». Face aux Zouglous engagés, politisés, surgit en 2004 son exact opposé, le coupé-décalé. Il est né dans la diaspora parisienne au moment où la guerre civile est au pays et il célèbre la réussite, l'argent et l'évasion, un genre délibérément apolitique. Le nom dit bien de quoi il s'agit. Couper, en argot nouchi, c'est faire un mauvais coup, arnaquer. Et décaler, c'est partir au plus vite pour flamber à Abidjan tout l'argent accumulé. Le troisième terme, aujourd'hui disparu, c'est travailler. Mais ce travaillement n'a rien du labeur. Il désigne l'acte spectaculaire de distribuer des liasses de billets en public. Alors, guerre des rythmes ? Oui et non. Musicalement, le coupé décalé tranche avec le Zouglou. Il a massivement recours à l'électronique et au trucage sonore. Mais malgré leur philosophie aux antipodes et leur rythme bien distinct, les deux genres finissent par partager la pratique spectaculaire du travaillement. Des fans flambeurs montent sur scène pour se montrer et arroser leurs idoles de billets de 50 euros, ce qui indique clairement l'influence culturelle et économique du nouveau genre musical sur l'ancien. Aujourd'hui, le Zouglou est parfois perçu comme une musique de vieux, face aux coupés décalés qui règnent toujours en maître sur les pistes de danse. Mais ensemble, ces styles musicaux forment les deux faces de la Côte d'Ivoire contemporaine. Le Zouglou incarne la conscience collective et la critique, le coupé décalé, l'évasion individuelle et l'oubli volontaire. Deux musiques donc pour une seule bande-son ivoirienne. Pour finir maintenant, quelques mesures de Magic System, un zouglou nettement moins politisé que celui des origines.
Mais on dit premier Gaou n'est pas Gaou.
Eh bien, merci Florent pour ce pas de côté et pour cette deuxième pause musicale. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir écouté cette émission. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous souhaitez écouter les émissions de la saison dernière, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de Radio Campus Paris, à la page À l'oreille du monde. Vous pouvez faire la même chose sur vos applications de podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous le 1er novembre pour une nouvelle émission, donc pour une nouvelle destination. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.
Du monde.
Géopolitique, un samedi par mois à 20h
sur Radio Campus Paris.